Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. La maternité est probablement l'une des aventures les plus transformatrices dans sa vie. Elle peut être une période d'hypersensibilisation ou de découverte de son hypersensibilisation. Comment appréhender au mieux les changements corporels, émotionnels, voire spirituels? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Christine Barbecot, doula, sophrologue et praticienne EFT, spécialisée en périnatalité. Dans son ouvrage « Maternité et hypersensibilité », paru chez Mango Éditions, elle partage avec vous des conseils bienveillants, des éclairages scientifiques et de nombreux témoignages de femmes qu'elle a accompagnées pour vous guider. Elle s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient enceintes ou en postpartum. Bonjour Anne-Christine et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Sophie, merci pour votre accueil.
Alors, pourquoi lier maternité et hypersensibilité ?
Alors, tout d'abord, je l'ai fait à titre personnel, dans mes expériences quand je suis devenue maman, 3 fois. Voilà. Et puis après, quand je suis devenue doula, dans mes accompagnements, je m'étonnais toujours de l'hypersensibilité qu'avaient ces femmes, en fait. Et donc, je m'étais beaucoup renseignée, moi, à titre personnel, sur l'hypersensibilité. Donc, les caractéristiques étaient toujours présentes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette hyperesthésie, ces sens ultra développés chez la femme enceinte, cette hyperémotivité, voilà, et puis aussi de une intuition peut-être plus affûtée, une quête de sens. Et donc, je me suis dit très naïvement, en fait, elles viennent me voir parce que comme je suis comme ça, voilà, ça vibre et on se rencontre. Et puis, en fait, je me suis aperçue que certaines de ces femmes, que je continue à voir derrière, enfin, voilà, dont je suis le parcours, en fait, elles sont pas hypersensibles. Elles ont pas ces caractéristiques-là. Et donc, je me suis dit, finalement, c'était pas leur personnalité, c'était une parenthèse de vie. Et donc là, j'ai commencé à creuser, je suis allée rencontrer des spécialistes de l'hypersensibilité, en particulier Charlotte Wills, qui a préfacé mon ouvrage. Et donc, on a beaucoup discuté, j'ai réussi à décortiquer tout ça. Et par mes lectures aussi, il y a beaucoup de livres en fait qui traitent de ce sujet-là, mais sous un nom très psychanalytique. Et ce sont souvent des ouvrages qui sont quand même vraiment axés pour les professionnels, voilà, qui sont parfois un peu difficiles à lire. Voilà. Et moi, j'avais envie d'apporter des témoignages, les connaissances du coup que j'avais pu glaner au long de ces 8 années sur le fait que cette grossesse, en fait, c'est une période d'hypersensibilité. Alors, Charlotte, elle dit d'hypersensibilisation, pour différencier, je trouve ça très intéressant. Et en fait, c'est physiologique. Et il y a du sens derrière. Voilà, c'était ça que j'avais envie d'amener.
Et c'est vrai que je rebondis, ayant lu votre ouvrage, il y a ce côté effectivement très accessible. Et quelque part, je trouve, rien que par la couverture déjà, La femme, quand elle le prend en main, il y a ce côté où on rentre dans votre univers et on entre aussi dans un cocon. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, de très rassurant, en tout cas, quand on rentre. Alors bon, moi, je suis pas concernée parce que je ne vis pas la maternité, mais je me suis mis à la place d'une femme qui pouvait attendre un enfant, ou en tout cas se dire, voilà, à un moment donné, j'envisage peut-être d'être maman, ou même en période postpartum, parce que ça, il s'adresse aussi oui. à ces femmes-là qui traversent cette période-là. Et je trouve, en fait, il y a vraiment ce côté, ouais, très, on a l'impression d'être pris par la main de A à Z, j'allais dire. Et donc, il y a quelque chose de très rassurant. Et je pense que c'est ce dont aussi les femmes ont besoin, je pense, durant aussi ces périodes-là.
Alors, je l'ai en effet écrit pour ça. Et j'ai eu des retours très surprenants aussi de femmes qui ont des enfants plus grands. Et donc, cette période de grossesse, accouchement, postpartum est parfois très éloignée. Et en fait, qui ont lu l'ouvrage en disant que c'était venu quelque part soigner quelque chose en posant des mots sur un vécu qui jusque-là avait été uniquement ressenti, mais pas conscientisé. Et voilà, alors c'était pas l'optique de départ, mais j'ai aussi eu ce retour-là qui était vraiment intéressant.
Et justement, que l'on soit ou non hypersensible et que l'on ignore être hypersensible, on ne vit pas sa grossesse de la même manière. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors, je vais essayer de faire des grandes catégories, même si chaque maternité est différente et chaque femme est différente. Mais il y a celles qui sont pas hypersensibles au départ. Et donc, elles vont rentrer dans la grossesse avec ce flot d'émotions, de sens, et ça peut être parfois assez violent. Voilà, donc elles vont découvrir cette hypersensibilité. Je vais choisir de parler d'hypersensibilité pour faire simple. Et elles peuvent être très, très déstabilisées par ça, en disant, mais est-ce que je deviens folle, en fait? Ça peut aller jusque-là, en fait. Après, il y a celles qui sont hypersensibles mais qui le savent pas, qui ont mis une grosse carapace autour et qui rentrent là-dedans et qui disent « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, elles le vivent un peu comme les premières, sauf que elles, ça va durer souvent après parce que la porte ne se refermera pas. Voilà. Et puis, il y a celles qui vivent déjà cette hypersensibilité, qui savent qu'elles sont comme ça et qui rentrent là-dedans et qui peuvent avoir peur en se disant « mais peut-être que ça va encore être multiplié par 10 000, ça va être vraiment compliqué à gérer ». Mais elles ont déjà des outils, en fait, elles ont déjà des capacités à traverser, en fait, cette hypersensibilité. Donc, voilà, disons que c'est souvent plus serein. J'ai même vu le cas de jeunes femmes hypersensibles qui, du coup, pendant cette parenthèse, étaient tellement centrées sur le bébé, tellement à l'intérieur d'elles, qu'en fait, elles avaient évacué tous les stimuli extérieurs. Donc, il y a vraiment toute une palette de couleurs différentes de vivre, en fait, cette période si intense, en fait, de la maternité au sens large.
Et justement, selon vous, la maternité peut-elle être une opportunité d'aller à sa propre rencontre?
Alors oui, c'est une proposition d'intériorité, en fait. C'est une facilité pour se mettre à l'écoute de son monde intérieur. Alors l'exemple typique, c'est la fatigue du premier trimestre. Souvent les femmes sont très très fatiguées et elles essaient de maintenir le cap, de retrouver de l'énergie, et en fait moi je les invite à accueillir cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est une proposition à ralentir ce rythme, à plonger à l'intérieur de soi, à trouver du temps de repos, à plonger à l'intérieur d'elle-même. En fait, d'habitude, quand on essaie d'aller à sa rencontre, c'est souvent par l'altérité. Donc, on va voir un psy, on discute avec des amis, on échange. Et en fait, c'est cet effet miroir qui va nous faire avancer et qui va nous faire accéder à un travail intérieur. En fait, là, l'altérité, elle est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est juste exceptionnel, en fait, comme moment. C'est-à-dire que ça se vit pas de nombreuses fois dans une vie. Et le fait que... En fait, cette grossesse, elle vient tout le temps se rappeler à la femme. En fait, ça la fait replonger à l'intérieur d'elle. Si je fais la comparaison avec la paternité, un homme, comme il n'a pas ses ressentis corporels, il va pouvoir à 8 heures le matin aller bosser. Et puis, il reviendra à 19 heures, il va dire « Ah oui, au fait, oui, on attend un enfant. » En fait, il n'y a peut-être pas pensé. Il y aura peut-être pensé, mais en tout cas, son corps ne viendra pas lui rappeler. La femme, c'est constamment. En fait, elle va avoir des nausées, elle va avoir mal au dos, et puis elle va sentir un petit coup de pied dans le ventre, et puis elle va être fatiguée. En fait, tout constamment vient lui rappeler qu'elle porte la vie. Et donc, oui, c'est forcément un chemin d'intériorité. Alors, moi, j'aime beaucoup l'expression du docteur Hugrain. Lui, il parle de psychothérapie accélérée et naturelle. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment 9 mois de, voire plus, de psychothérapie.
Mais justement, je rebondis par rapport à ça, parce que finalement, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des difficultés finalement à vivre ce moment d'intériorité, parce que c'est pas toujours simple de se retrouver. En plus, ça, pour le coup, c'est très personnel, parce que elle est finalement assez seule, la maman, la future maman, parce que personne ne peut vivre ses ressentis, en fait. C'est elle avec elle-même. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui peut être angoissant aussi, je pense, ou en tout cas, pas très confortable.
Oui, et il y a des femmes qui choisissent de pas plonger dedans. Et c'est OK. Il y a pas de souci. Donc il y a des femmes qui vont vivre leur grossesse comme si c'était un événement lambda et voilà, qui vont continuer leur vie sans plonger là-dedans, comme si elles mettaient en fait un mur. Ouais. Voilà, pour pas plonger à l'intérieur d'elles. Et voilà, chacun son chemin, enfin voilà. C'est juste une proposition de chemin d'intériorité. Et donc, en effet, celles qui choisissent de plonger dedans, c'est jamais confortable. Voilà, c'est rarement simple. Ça peut faire peur, mais c'est le processus de transformation qui va permettre cette matrescence, en fait.
Ouais, totalement. Comme quand on fait un travail sur soi, d'ailleurs, c'est jamais très confortable, mais au final...
Exactement.
Ouais. C'est le passage, entre guillemets.
Ça demande quand même un effort. Oui. Il y a des moments où on se dit, OK, est-ce que je plonge ou est-ce que je plonge pas, quoi. Voilà. Et là, chacune a à choisir, en fait, peu importe son chemin.
Exactement, totalement d'accord. Et pourquoi la grossesse peut-elle être une aventure spirituelle ?
Alors, si on revient sur cette histoire de sensibilité, en fait, ce qui nous connecte au monde, c'est notre sensibilité. C'est notre seul moyen d'accès au monde. Et donc, en fait, la grossesse venant démultiplier cette sensibilité sous toutes ses formes, hein, pas que les sens, mais les émotions, l'intuition, etc. Et ben, en fait, on a la possibilité d'augmenter notre connexion au monde et au monde au pluriel, à notre monde intérieur et puis au monde extérieur. Et en fait, c'est l'alliance des deux qui va pouvoir en fait ouvrir des portes sur tout ce qui est pas matériel. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça. On parle pas de religion, on parle juste de quelque chose qui n'est pas palpable. Et ça va passer par l'intuition, par exemple, avec je ralentis mon rythme, je me mets à l'écoute de moi-même, même si parfois c'est une écoute un peu forcée. Je pense par exemple aux femmes à qui on demande d'être alitées. C'est une épreuve extrêmement difficile pour une très grande majorité des femmes, parce que souvent ce sont des femmes très actives. Et leur corps vient me dire, OK, stop là. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce stop? Voilà. Qu'est-ce qu'on vient reconnecter à l'intérieur? Comment est-ce qu'on peut sentir bouger la vie à l'intérieur de soi tout en étant immobile? Et en fait, ça va passer par cette intuition, par cette quête de sens aussi. Souvent, les femmes qui décident de plonger là-dedans, elles vont se poser mille questions. Alors, ça va de comment va être mon bébé, est-ce qu'il va être en bonne santé, qu'est-ce que je peux faire pour le protéger, est-ce que je vais être une bonne mère, et puis la notion de mort aussi, parce que quand on donne la vie, forcément derrière nous sommes des êtres incarnés et finis. Voilà, donc je trouve que la maternité, ça a ça d'exceptionnel, c'est à la fois ça nous recentre, on revient à l'intérieur de nous-mêmes. On met des priorités sur les choses, on voit plus le monde de la même manière. Et en même temps, ça nous décentre, parce que, on le verra en particulier sur le postpartum, en fait, la seule chose qui compte, c'est notre enfant. Donc, on est complètement décentré. Et il y a cette espèce de paradoxe là, où parfois ça peut être comme un moment de flottement, où on est à la fois hyper à l'intérieur de soi, et en même temps... le soin, entre guillemets, n'a plus d'importance, parce que la seule chose qui a de l'importance, c'est cet enfant qu'on porte et à qui on donne la vie.
Oui, effectivement, et c'est très... je trouve ça intéressant de voir effectivement qu'il y a vraiment ce paradoxe. On est dans deux extrêmes, en fait, finalement, parce que c'est un petit peu ça.
Complètement. Et c'est ça qui peut être très, très déroutant pour une femme qui devient mère, parce que, en fait, elle ne sait plus où elle en est.
C'est ça.
Et elles peuvent vraiment, quand je disais qu'elles peuvent croire devenir folles, il y a vraiment de ça, de l'idée de la folie, en disant, mais en fait, je suis en train de me dissocier.
Oui, c'est ça, complètement.
Est-ce que c'est pas une maladie psychique? En fait, c'est un processus. Alors, il peut y avoir des maladies psychiques, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est normal, en fait. C'est un processus naturel.
Et pourquoi est-ce important de se préparer à vivre son enfantement?
Alors, en théorie, je dirais que, en fait, on ne devrait pas avoir de préparation à enfanter, parce que la femme met au monde depuis des millions d'années, et en fait, c'est un acte réflexe. Accoucher, ça ne se contrôle pas, ça ne se gère pas, voilà, ça se traverse. C'est vraiment un réflexe physiologique. Donc, on ne devrait pas. On a juste, entre guillemets, à se reconnecter à notre instinct. Sauf que. Aujourd'hui, dans nos sociétés, depuis quelques siècles, en fait, on a mis des couches culturelles, on a mis des croyances qui font que, globalement, on a quand même beaucoup de mal à se reconnecter à nos intuitions. Je trouve, en particulier dans notre société actuelle, on est beaucoup coupé de nos émotions, voilà, et on nous invite à vraiment être coupé de nos émotions, en particulier dans notre éducation. Et donc, le jour J, c'est compliqué en un claquement de doigts, en fait, de dire « Ok, je plonge complètement dans l'accouchement et je laisse faire. » Et en fait, ça, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de se préparer. Et moi, quand j'accompagne les femmes pour qu'elles puissent se projeter dans leur accouchement, je trouve qu'il y a deux temps importants. Il y a un premier temps de nourrissage, entre guillemets, du cerveau. Et dire « Ok, pour moi, c'est quoi un accouchement ?» C'est quoi mes croyances qui sont derrière? Comment ça se passe dans d'autres cultures? Comment ça s'est passé dans d'autres temps? Pour essayer de faire un pas de côté et de se dire, OK, en fait, l'idée que j'avais au départ, eh ben, peut-être que c'est celle que je vais vivre et c'est OK, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà. C'est juste que le cerveau, il puisse ouvrir le champ des possibles en se disant, ah, OK, en fait, il y a d'autres manières d'accoucher. Je peux faire autrement que ce que j'ai dans la tête. Et ce que me propose la société, globalement. Et une fois que le cerveau, il est OK avec ça, et ben en fait, après, on va dans le corps. Et comment on va aller se préparer dans le corps à vivre ça? Parce que, quand même, l'accouchement, c'est éminemment corporel. Voilà, comment je me prépare à cette ouverture, la respiration, la sophrologie, le son, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Que je trouve juste incroyable, en fait, pour traverser les contractions. Et donc, comment est-ce que je vais expérimenter, m'entraîner, entre guillemets, même si j'aime pas trop ça, il n'y a pas d'objectif. Mais en tout cas, voilà, expérimenter plein d'outils corporels pour pouvoir, le jour J, les utiliser sans y penser. Alors là, pour le coup, l'objectif que j'ai, moi, quand j'accompagne, c'est de dire aux femmes, en fait, le jour J, tu vas pas te dire, ah, tiens, si je me mettais dans cette position, ah, tiens, si... Ben non, en fait, comme tu l'auras déjà vécu avant, tu vas le faire instinctivement. Ça va venir. Mais c'est difficile, par exemple, dans notre culture, de se mettre à quatre pattes, toute nue pour accoucher, si avant, on l'a pas conceptualisé et ressenti dans notre corps. Bon, je trouve ça compliqué. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans la théorie. Et donc, voilà, pour moi, c'est important de se préparer. Et puis, il y a une troisième phase. C'est, je pense, les semaines avant l'accouchement. En fait, faut vous lâcher, faut arrêter. On arrête de lire, on arrête de se préparer, on arrête de regarder des vidéos. On se laisse porter, en fait. On se prépare à ce moment où on va se laisser porter par ce qui se passe et où on va expérimenter l'intensité et l'impuissance.
Et quand je vous écoute, je me dis finalement, c'est vraiment important de se faire aussi accompagner finalement, parce que c'est pas facile de se laisser porter, par exemple, de lâcher. C'est pas, surtout dans la société dans laquelle on vit, ultra contrôlante, ultra rationnelle. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me venait. Faut aussi se dire que ce qu'on ressent, les douleurs, etc., les émotions, tout ce qui peut nous traverser et ce qu'on peut sentir aussi dans notre corps, que c'est légitime, parce qu'on vit dans une société quand même où même ça, c'est pas toujours légitime, on minimise, on dit oui, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a tout ça, en fait, tout, enfin, il y a plein de choses à déconstruire, en fait, pour finalement se recentrer sur ce moment, quoi.
Oui, puis alors il y a tout le côté supprimer la douleur.
C'est ça.
Parce qu'en France, on a quand même cette idée de dire, il faut supprimer la douleur. Alors, hors contexte maternité, je suis complètement d'accord, mais dans un enfantement, la douleur, c'est pas une douleur pathologique. C'est pas une douleur qui vient annoncer une maladie, une crise. C'est vraiment un guide, en fait. D'abord, on n'est pas obligé de la vivre. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas obligé de la vivre de la même manière ou de manière exponentielle pendant l'accouchement. Ça, c'est une croyance importante qu'on a. Et en fait, on peut juste se laisser guider par elle. Donc souvent, il y a des gens qui disent « Oh là là, mais t'as envie de souffrir ?» Alors non, les femmes qui souffrent, on les laisse pas souffrir. En effet, la péri est très salvatrice et c'est un outil incroyable. Mais pour moi, c'est le dernier outil à utiliser dans un enfantement. C'est-à-dire que si avant, j'ai tout essayé, j'ai essayé les positions, j'ai chanté, j'ai fait de la sophro, enfin peu importe, je suis arrivée au bout de mes ressources et là vraiment c'est trop difficile et je sens que je vais basculer dans la souffrance. La souffrance étant dans la tête, étant pas dans le corps. La douleur, elle est dans le corps. Mais la souffrance, on peut souffrir de la perte d'un être cher. Notre corps, il n'est pas atteint. Et quand la femme, elle bascule dans la souffrance, alors oui, enfin il y a aucune hésitation à avoir, quoi. Il faut la soulager. Mais avant, Elle peut traverser ça en étant accompagnée. Mmh. Elle peut aussi traverser ça en étant seule. Mais je constate quand même dans mes accompagnements qu'il y a toujours des moments dans l'accouchement où il y a des doutes. Mmh. Et dans ces doutes, eh ben, c'est bien d'avoir des yeux dans lesquels se plonger, mmh. une main qui se raccrocher, juste un mot, un souffle. Ben voilà, quelqu'un qui soit en confiance avec le processus.
C'est ça.
Et qui puisse soutenir la mère dans ce passage. Mmh. Alors d'autant plus que les sens sont encore plus démultipliés. On va dire que l'accouchement, c'est le paroxysme de l'hypersensibilité. Et moi, j'aime beaucoup dire que en fait, la femme, elle entend ce qu'on pense. Mmh. Elle est tellement ouverte que elle capte tout, mais par les pores de sa peau même, mmh. elle capte tout ça. Et donc, elle a besoin d'accompagnants qui soient vraiment dans une confiance absolue dans le processus de vie. Mmh. Et c'est souvent un peu compliqué pour les partenaires qui sont aujourd'hui les accompagnants privilégiés, mmh. Mais qui sont très peu préparés à ça. Mmh. Très, très peu. Et donc, eux, ils savent pas trop à quoi s'attendre et ils vont découvrir des choses qui peuvent être parfois, vues de l'extérieur, violentes. Mmh. Mais pour la femme, voilà, ça se traverse si c'est accompagné.
Ouais, ouais. C'est ça. Exactement. Et justement, la maternité est assimilée à une promesse de bonheur. Est-ce toujours le cas ?
Alors, oui, c'est souvent présenté comme une évidence, la maternité. Mmh. C'est quelque chose d'inné, quelque part, qui rend heureuse. En fait, moi, je trouve que c'est toujours un tremblement de terre, mmh. tremblement de mer. Voilà, ça vient faire bouger toutes les lignes. Alors, parfois, c'est un peu plus doux, voilà, selon les femmes, selon les bébés, mais quand même, c'est toujours très perturbant. Enfin, la vie, c'est un vrai tsunami. Voilà, donc c'est assez. On a une attente, on a une image qui est véhiculée en particulier par les médias et par les films, où, alors pour caricaturer, mais en gros, l'accouchement, ça se passe toujours hyper vite, c'est hyper violent, et la femme, elle est bien contente d'avoir un médecin qui est là pour la sauver. Mmh. Voilà. Je caricature, mais c'est un peu ça quand
c'est
même
un
dans
peu
les
ça.
Films. Et après, le bébé tout de suite, il est tout rose, tout joufflu, tout beau, il pleure pas, il dort bien, il prend son biberon, nickel. Voilà.
C'est génial.
Et la femme, ah oui, j'ai oublié, et la femme quand même, elle remet son petit 36 tranquille, ouais. Et elle est pimpante, maquillée. J'ai jamais vu ça.
Non plus, dans mon entourage non plus.
Et c'est triste parce que du coup, en fait, quand on est enceinte, on s'attend à ça. Mmh. Voilà, on s'attend à cette joie. Et puis on a désiré cet enfant, et donc on se dit, ben, ça va être merveilleux. Et oui, ça va être merveilleux. Mais en fait, le merveilleux, c'est pas tout le temps. Ça peut pas être 24 heures sur 24. Sinon, ça serait pas merveilleux. Mmh. Ça percevrait plus que okay. c'est merveilleux. Et donc, en fait, il y a des moments qui sont aussi très bas. Parce que c'est difficile, parce que c'est fatigant, parce que on se rend compte de la responsabilité aussi qui nous tombe dessus. Mmh. Et souvent les femmes, après elles disent oui, alors tu m'avais dit que ça allait être difficile, ouais. Mais je ne pouvais pas imaginer en fait. On peut pas imaginer la fatigue, la disponibilité qu'un bébé demande aussi. Mmh. Je pense que tant qu'on l'a pas traversé, c'est compliqué de le vivre. Voilà. Alors même si ça change en fonction des bébés, hein, voilà, c'est très variable, mais quand même, voilà, la maternité, oui, c'est une promesse de bonheur parce que nos enfants, ils nous émerveillent, ils nous apportent, voilà, de l'amour et des quantités de belles choses, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Voilà, il y a une espèce de face cachée, voilà. Et là, je trouve que c'est important d'aller materner la maman. D'aller la soutenir pour qu'elle-même puisse materner son enfant. Et j'aime bien la notion de matrice de soutien, c'est-à-dire que voilà, des groupes de femmes qui vivent la même chose en même temps pour juste venir dire ben moi je l'aime mon enfant, mais là j'en ai juste marre en fait. Mmh. Là je voudrais juste dormir ou prendre une douche. Mmh. Parce que on en est voilà dans les premières semaines on en est. Ouais, donc okay. Voilà, c'est une promesse de bonheur, mais pas que ça.
Et en quoi l'hypersensibilité peut-elle être un atout, notamment en postpartum ?
Alors, en fait, dans tout ce que la femme a traversé pendant sa grossesse et son accouchement, elle a pu aller connaître et reconnaître ses limites. Voilà. Si elle a accepté de plonger dedans et de faire des temps d'introspection, elle a pu essayer de décoder ce qui la mettait vraiment en colère, ce qui pouvait la rendre triste, ce qui pouvait la mettre en joie. Voilà. Et donc ça, c'est un énorme avantage dans le postpartum de connaître ses limites, de dire là, en fait, je vais passer un cap où derrière, je suis pas sûre de pouvoir revenir, en fait. Voilà. Donc pour ça, c'est un atout indéniable. L'avantage de cette hypersensibilité aussi, c'est que en fait, elle génère beaucoup d'empathie. Et les gens hypersensibles sont souvent des grands empathiques. Et ça veut dire que, eh ben, on a une plus grande capacité à aller se connecter à son bébé. Et ça, c'est physiologique. C'est-à-dire que l'hypersensibilité de la femme enceinte, elle a du sens. Elle est là dans le processus de matrescence. Mais elle est là aussi pour que la femme, elle soit alignée sur la même vibration que son bébé, qui lui est un être hypersensible. Voilà. Quand un bébé naît, il a aucun filtre. Et donc, il capte tout. Il est hypersensible. Et on peut imaginer que si lui, il est hypersensible et que la maman l'est pas, eh ben, en fait, la connexion soit plus difficile à faire. Donc, l'hypersensibilité, elle est physiologique. Elle est faite, en fait, pour qu'il y ait une adéquation, une meilleure connexion, une connexion plus facile, en tout cas, entre cette maman et son bébé. Donc, ça va passer aussi par l'intuition. Et je donne toujours l'exemple de celles qui ont allaité. Il y a toujours un moment où, en fait, la femme, elle se réveille avant que le bébé, il ait manifesté un signe pour manger, en fait. Et là, moi, je trouve ça juste incroyable. Et c'est cette hypersensibilité. Alors, il y a une hypervigilance, ça, c'est sûr, qui est très fatigante aussi, hein, en postpartum. Mais on peut prendre le joli côté et parler de cette hypersensibilité qui va faire qu'en fait, on peut même devancer les besoins de son bébé. Et ce bébé, il est, juste pour rappel, hein, il n'est pas mature. Sans personne pour s'en occuper, il est incapable de survivre. Il ne peut pas se réchauffer, il ne peut pas se nourrir. Il est en insécurité constante. Et donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la survie, d'avoir une mère hypersensible qui soit connectée à ses besoins.
Quel message avez-vous envie de transmettre à nos auditeurs et plus particulièrement à nos auditrices ?
Alors, j'aimerais leur dire que la maternité, en fait, ça affecte, ça bouleverse, ça transforme, ça vient ouvrir des portes sur des perceptions différentes, en particulier une perception différente du monde et de comment on peut le percevoir, ce monde-là. Ça peut permettre l'accès à une conscience peut-être plus élargie. Voilà. Alors, tout ça, c'est beau, mais c'est pas un chemin toujours confortable. Voilà. Et c'est OK. C'est normal. Mais ça peut être aussi un chemin merveilleux. Ça alterne souvent les deux, d'ailleurs. Et par contre, c'est toujours, toujours un chemin transformateur. Voilà. Je dis toujours. Peut-être qu'il existe des femmes qui ne sont pas transformées après leur maternité. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Voilà. Alors, transformer dans le sens, alors des fois, ça peut être assez radical, hein. Ça peut amener à des changements de vie. Parce que les priorités changent complètement, la perception du monde change complètement. En tout cas, ça peut juste amener à une transformation de ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis plus le centre, en fait, de mes préoccupations. Et je me décentre vers cet autre-là. Et ça génère un amour qui est jusqu'alors inconnu. C'est-à-dire que... avant, on connaît l'amour. Alors, l'amour pour ses parents, l'amour pour son partenaire... En fait, je trouve que la langue française est assez pauvre sur le terme amour, parce que j'aime le chocolat et j'aime mes enfants. Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, non.
Et là, on découvre un nouvel amour qu'on n'expérimente qu'avec la naissance d'un enfant. C'est un amour qu'on appelle oblatif, qui est qu'on fait passer tous ses besoins avant les nôtres. Voilà. Et ça peut être très déstabilisant. Parce que parfois, moi, j'ai eu des retours de femmes qui me disaient « Mais en fait, ça me dévore. Ça, c'est comme s'il me mangeait, cet enfant. Voilà, il vient m'absorber. Voilà. Et comment je fais pour petit à petit reprendre de la distance et me retrouver, moi, en tant que femme, en tant que mère, mais surtout en tant que femme. Voilà. » Donc, moi, je les invite, les auditrices, si elles en ont l'envie, à plonger dedans, parce que c'est incroyable à traverser. Peut-être à être accompagnée dans ces moments-là, parce qu'on a rarement un environnement qui est soutenant. Soit parce que ils ont pas traversé ça, soit parce que il y a eu des mauvaises traversées. Et donc, moi, j'invite les auditrices en particulier à se protéger, en fait. Je pense aux histoires d'accouchement, des tantes, des grands-mères, des machins qu'on n'a pas sollicités et qui nous tombent dessus et qui viennent nous polluer, entre guillemets. Voilà, et empêcher peut-être une projection différente pour nous. Donc, voilà, un accompagnement peut être intéressant pour être soutenu, en fait, dans ce processus.
Et c'est vrai que je rebondirais sur un point. Souvent, même si on n'est pas forcément dans un univers qui est malveillant, mais parce que c'est humain, on peut faire aussi l'objet de jugements, en fait, parce que effectivement la personne n'a pas traversé la même chose que nous ou ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense que le fait aussi d'être accompagné permet aussi d'être dans un espace où en fait on peut se déposer et on aura un regard bienveillant mais aussi non jugeant. En fait, et je pense que ça c'est aussi important, je pense, en tant que bon, pour tout être humain finalement, mais d'autant plus dans cette période où la sensibilité elle est accrue.
Oui, alors c'est vrai que je pense qu'on peut différencier des environnements un peu malveillants, mais oui. Sans forcément être conscient, mais des phrases du genre bah tu l'as voulu.
C'est ça.
Ça c'est malveillant, même si c'est pas voulu souvent, mais c'est extrêmement difficile. Mais ça peut être simplement dans le non-accueil de l'émotion.
C'est ça.
C'est-à-dire, oh là, mais elle arrête pas de pleurer, là, il y en a marre. Écoute, t'es enceinte, tu devrais être heureuse, quoi. Voilà. Et en fait, aller nier les émotions, aller nier les sensations, tout ça, ça va venir perturber le processus. Donc, s'entourer de personnes, en effet, vous avez raison, c'est le non-jugement, je pense, qui compte. Là, cette bienveillance, ce non-jugement, cet accueil.
De ce qui est, exactement. C'est l'accueil de ce qui est, ouais, totalement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ?
Eh ben, moi, j'aimerais dire que cette hypersensibilité, il faut surtout pas la nier, surtout pas lutter contre, et que c'est un merveilleux cadeau de la vie, en fait, pour devenir mère.
Un grand merci, Anne-Christine, pour notre échange. Alors, j'invite les auditeurs qui veulent aller plus loin à découvrir votre ouvrage « Maternité et hypersensibilité » qui est paru aux éditions Mango et qui est vraiment, comme je disais, déjà, j'adore la couverture, mais même l'intérieur, enfin, il est très, très agréable à lire. Et il y a vraiment cette... j'ai l'impression que vous prenez le lecteur par la main de A à Z et on rentre vraiment dans un cocon.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt !